Le FRAC PACA accueille jusqu'au 15 novembre une installation de Jean-Luc Brisson intitulée « Le jardin est une chose mentale », un projet réalisé en partenariat avec la Gare Franche et le Cosmos Coleil. L'installation est composée de 33 bouts de monde flottant dans des récipients pleins d'eau. Elle est le fruit d'une rencontre entre l'artiste et les habitants de la cité du Plan d'Ao.
On a une image ?
Le 3 octobre 2008, jour du vernissage, Karima et Zora, habitantes du Plan d'Ao, étaient venues au FRAC et nous faisaient part de leur réaction devant l'installation de Jean-Luc Brisson.
Ça, je peux dire que ça représente la cité du Plan d'Ao. Et je reconnais un peu par rapport au banc, ce Gabi de Bruit du Frigo, c'est ça Gabi ? Ouais. Bruit du Frigo, donc avait construit un banc là, derrière l'avenue du Plan d'Ao. Donc j'ai reconnu par rapport à ça.
Et les pierres ?
Ouais, les pierres à cuire.
Okay. Ça c'était genre de dodane ou des obstacles pour les voitures que...
Les voitures qui jetaient là. Hein,
tous les bâtiments qui étaient cassés, ils étaient remplacés par des pierres.
Voilà, parce que les jeunes ils avaient tendance à prendre les voitures, les brûler, les mettre là. Donc ça pouvait blesser les enfants. Donc on avait demandé à ce qu'il y avait des pierres qui entouraient pour pas que...
Non, on n'a pas demandé des pierres, on a demandé des obstacles.
Des obstacles, donc on nous a mis ça.
Protégés par rapport aux enfants. Tout ce qu'ils nous ont trouvé, c'est des pierres.
Voilà. Alors qu'on nous avait promis l'espace vert. On a eu l'espace pierre. Que ça. Ça aussi, ça représente le Plan d'Ao. Donc, les voitures bâchées, ça représente le galion, je pense. Hein. L'eau qu'il y a au milieu, là, de ça. Donc, ça représente... on peut dire que le Plan d'Ao n'est pas stable,
là, c'est
ça.
Là, c'est tout un symbole, parce que pour nous, ça fait des années que le quartier est en réhabilitation. Et on a l'impression qu'on n'arrive pas à trouver encore l'équilibre. Et quand on voit flotter, ça résume toute notre situation et notre vie. Parce que par rapport aux politiciens qui arrivent, à chaque fois il y a une politique, il y a un nouveau projet, ils nous promettent des choses qu'ils n'arrivent pas à réaliser. Et on a l'impression qu'on flotte.
Voilà ça, on nous promet des espaces, que je peux dire. En fait, ça je pense que c'est le mur de Berlin qu'on nous a mis là, hein, parce qu'on nous a mis un mur de Berlin, donc... C'est un mur qui veut dire que ce n'est pas accessible pour les gens du Plan d'Ao. Or que depuis tout petit, depuis 30 ans, voire 37 ans, là, c'est un lieu aussi qu'on avait l'habitude de jouer. Quoi. On était là,
ils
on se réunissait.
Ils ont l'ouverture sur... le nouveau Plan d'Ao sera ouvert sur tout... parce que c'était fermé avant. Avec tout ce qui se passait au quartier, on n'avait pas le droit. Je veux dire, c'est un quartier qui était fermé. Ils nous avaient promis avec la réhabilitation l'ouverture. Et là, on a l'impression qu'ils sont en train de nous enfermer, de faire une forteresse. Nous, à l'intérieur, et autour, c'est... C'est tout un mur. Il faut sortir bientôt avec les passes.
Ah oui, c'est clair. Il a fait un poisson parce qu'il ne sait pas trop si c'est un poisson ou si c'est un mur, au fait. Parce qu'il ne connaît pas trop par rapport à nous, les habitants du Plan d'Ao. Nous, on est sûr que c'est un mur de Berlin. Voilà, c'est un poisson d'avril, si vous voulez. C'est un poisson d'avril.
Et on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va dire non, ce que vous avez fait, c'est une erreur. Il faut casser tout ça. Il faut faire parce que vous avez promis aux gens du Plan d'Ao l'ouverture. Mais et qu'on a demandé pourquoi le mur s'est construit, parce qu'on nous avait promis l'ouverture et tout. Ils nous ont dit que c'était, ça n'appartenait pas aux logeurs, ça appartenait à la mairie. Et c'est la mairie qui a vendu. La mairie, elle dit c'est les logeurs. Les logeurs, et on flotte.
En fait.
Voilà,
on flotte,
on revient.
C'est ça représente tout ça, on flotte. D'ailleurs, on l'a reconnu de suite, on n'avait pas besoin de demander à Jean-Luc. Comme on est rentré, nous, les habitants du Plan d'Ao, de suite. Même lui-même s'est étonné. Hein. Jean-Luc lui a dit, je m'étonne que vous savez tout. Ah oui, de suite, on s'est dit...
Comment vous l'avez rencontré, en fait ?
Jean-Luc, comment on l'a rencontré ? Ben, moi, je ne le connais pas bien, Jean-Luc.
Moi, je l'ai vu au Cosmo Collège. Et j'ai vu l'expo qu'il a fait il y a 3 ou 4 mois. C'est là-bas où je l'ai rencontré.
On continue la balade ?
Allez, c'est parti. Je ne sais pas ce que ça représente, d'après toi. Qu'est-ce que ça représente, ça ?
On a l'impression qu'on est en train de... Parce que je vois les gens jardiner, et parce qu'on n'avait pas d'espace vert. Alors on voit que par rapport à Cosmo Collège, le projet qui est en train de faire le jardinage, c'est tout un symbole, parce qu'on a l'impression qu'ils essayent de, sur du goudron, essayer de faire du jardinage. Ça veut dire qu'ils sont partis au-delà de...
De dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, qu'on peut faire quelque chose, même sur du goudron, quoi. Voilà. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc il nous a montré que qu'on peut réaliser beaucoup de choses sur le plan d'art. Ouais.
Si on peut faire du jardinage sur ça, ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses si on le veut.
Qu'est-ce qu'il y a dessous ?
Pardon ?
Qu'est-ce qu'il y a dessous ?
C'est un tractopelle, ça.
Un tractopelle qui...
C'est les travaux ?
C'est les travaux qui commencent et qui fait que... c'est le travaux en cachette qu'ils font sans nous, là, en ce moment,
au
plan d'eau.
Pour moi, c'est les travaux en sous-marin, parce qu'ils nous disent que c'est les gens du plan d'eau qui doivent prendre les décisions, qui doivent participer au projet, parce que c'est eux qui vont... Et on a l'impression qu'arrivé, on voit des bâtiments se construire, mais sans la consultation des gens du plan d'eau, sans voir. Et là, pour moi, c'est les travaux qui sont en sous-marin. Ils font les choses sans nous. Je sais pas, j'arrive pas à voir là. J'arrive pas à...
C'est une baignoire.
Oui.
Il y a de l'eau. Avec des plantes, c'est un peu vert. C'est un jardin, une mer végétale.
Oui.
Et puis, il y a une île en polystyrène.
Oui.
Et puis, on pourrait voir un paysage sur l'île. C'est entre le dessin et le paysage. Et puis, qu'est-ce que tu vois, là ?
Je vois des pierres.
Peut-être l'espace de jeu qu'il n'y a pas pour les petits. Un cheval symbolise les parcs, tout ce qu'on peut trouver dans un aire de jeu qu'on n'a pas. Au milieu, on voit un vide. Après, je sais pas. Ils avaient posé la question pourquoi il avait mis une éolienne. Mais moi, j'ai vu parce que pour moi, peut-être ça peut symboliser l'énergie humaine. Si tous les gens du plan d'eau essayent de produire leur propre énergie, je devais se réveiller, réfléchir, peut-être ils changeront le cours de leur l'histoire de leur quartier. Voilà. Pour moi, c'est ce qui peut symboliser, parce que l'énergie humaine, l'énergie de l'éolienne, on va la chercher quand il y a le vent, mais on peut produire notre propre énergie.
Jean-Luc Brisson, bonjour.
Bonjour.
Jean-Luc, c'est ce soir le vernissage d'une installation que tu présentes au FRAC PACA.
Oui.
Un ensemble de paysages qui sont issus d'une résidence à la Gare Franche, à côté de la cité du Plan d'Eau. Peut-être est-ce que tu peux me raconter ce soir, qu'est-ce qui te reste à l'esprit de ces quelques semaines, quelques mois passés là-bas ?
Bien, tu sais, je me suis rendu compte... au bout d'un moment que je fréquentais le quartier du Plan d'Eau comme un jardin. C'est peut-être pas très évident, pour moi c'était pas du tout clair dans ma tête. En fait, je faisais un petit peu toujours les mêmes trajets dans ce quartier, comme s'il y avait des allées. Et puis aussi j'ai fait beaucoup de siestes, comme on fait des siestes dans un jardin. Ça prouve que finalement dans ce quartier, on peut être en confiance, on peut être bien comme dans une espèce de paradis. Je crois que c'est ce côté paradisiaque du jardin qui m'a touché dans ce quartier. Il y a une vue à couper le souffle, il y a des plantes étonnantes, il y a des sols extraordinaires.
Ça pourra paraître paradoxal,
oui,
de présenter le plan d'Aou sous ce mot de paradis.
C'est ce que j'allais dire. Je suis pas naïf au point de ne pas voir toutes les difficultés, toute la misère, les ratés de ce quartier. Il y a beaucoup d'habitants qui se sentent abandonnés, qui se sentent flottés, qui pensent qu'on les balade d'une certaine manière. On s'occupe d'eux, puis on s'occupe plus d'eux. On s'occupe d'eux quand on a besoin, on s'occupe plus d'eux quand on n'a pas besoin, etc. Et en même temps, ce qui m'intéresse, c'est que ça n'arrive pas à détruire cette espèce de sentiment d'être arrivé dans un paradis. Moi, j'habite à 100 km au nord de Marseille, et à chaque fois que je viens au Plan d'Aou, que je viens à la Gare Franche, j'ai vraiment l'impression d'être très très loin. C'est un autre monde, un autre pays. Enfin, Et c'est pas que de l'exotisme, c'est un vrai voyage, c'est-à-dire que il y a un dépaysement, c'est un autre pays, je suis dans un autre pays. J'ai des images très précises du quartier que j'essaye de mettre en scène sur ces petits bouts de mousse, de polystyrène qui flottent là dans les récipients.
Paysages, ce sont des pays, ce sont des îles.
Ce sont des moments aussi, ce sont des histoires. Ce sont des histoires qui durent un peu éternellement. D'ailleurs, c'est très curieux parce que le paradis, c'est un peu ça. C'est la peur de mourir. Donc on se dit, c'est tellement beau qu'il faudrait que ça dure tout le temps. Et en fait, ça doit être particulièrement chiant que ça dure tout le temps, tu vois. Et même, je pense que depuis que l'homme a été chassé du paradis, le paradis n'est plus un jardin puisqu'il est plus entretenu. Ça doit être un sanctuaire écologique, donc ça doit être la nature sauvage. Ça doit être très méchant, quoi. Ça doit être impénétrable. D'ailleurs, il y a des archanges, non, qui, comme des vigiles, qui empêchent qu'on le pénètre.
Les habitants du plan d'arbre qui sont venus voir cette installation, ces paysages, immédiatement reconnaissent évidemment d'où ils sont issus avec une grande acuité. Il y a un rapport très fort avec toi et qui se continue au travers de ce travail-là.
Oui, alors c'est étrange parce que ce ne sont pas des fréquentations longues et pesantes et suivies. Ce sont des rencontres très brèves, des complicités, des rencontres par personnes interposées. C'est très léger et en même temps très très fort. Les gens que je connais et qui me connaissent, je pense, se sentent en confiance et je me sens en confiance avec eux. Mais c'est pas pour ça qu'on se voit souvent ou beaucoup. Et ça, c'est assez beau.
Tu interviens à l'École du paysage, qui est basée à Paris, au Potager du Roi, enfin Paris, à Versailles, et puis à Marseille.
Oui, l'École du paysage, c'est une école où la question du jardin est très importante, mais c'est une école où on forme des paysagistes qui vont avoir en charge l'aménagement du territoire et qui vont s'occuper aussi bien, surtout de l'espace public à toutes les échelles, que ce soit une place, que ce soit un canal, que ce soit une vallée. Ils vont avoir la responsabilité du devenir de ces lieux. Pas tout seul, bien sûr, ils vont travailler en équipe avec des urbanistes, des architectes et surtout des politiques, enfin la maîtrise d'ouvrage, quoi. Ça, c'est le plus important. Donc bien sûr que pour eux, je pense qu'il faudrait vraiment que le jardin soit une chose mentale, c'est-à-dire qu'il y ait cette volonté de jardiner le monde.
C'est aussi mieux parce que là je vois un bonhomme et puis après donc il y a plein de fleurs et des arbres et on voit bien donc une possibilité que les gens s'épanouissent, hein. Alors, c'est vivre avec la nature peut-être.
Ce qui suivra, c'est une espèce d'apothéose de la résidence dont je connais pas du tout la forme encore parce que c'est un travail polymorphe, pas informe mais polymorphe. Et ce que l'on voit aujourd'hui, par exemple, pendant un moment je pensais que ça allait être un grand parking de voitures sur cale. Et en fait, non, ce sont ces mondes qui flottent. Et donc, je suis incapable de dire ce qui sera à la fin de la résidence, formellement. Mais je sais que ce sera toujours ces histoires qui se continueront, toujours autour de cette idée du jardin qui est une chose mentale. C'est une espèce de parodie de la parole de Léonard de Vinci qui disait ça de la peinture, mais voilà comment le jardin se libère du jardinage et devient une pensée, une rêverie, un rapport au monde dont on a besoin. C'est-à-dire que pour moi, c'est quand même quelque chose de très sérieux. C'est une histoire de vie et de mort. On décide que telle plante va vivre, telle plante va mourir. Enfin, c'est pas rien. Et en même temps, c'est très léger, on fait que passer, qui n'est pas définitif, c'est provisoire. J'aime beaucoup cette idée du provisoire.
Mais tu n'as pas l'impression que c'est un peu paradoxal que plus on jardine, moins il y a de jardin? Parce que plus on cultive, plus on façonne, plus on anthropomorphise, et moins il y a cette liberté que tu nous donnes à voir là sur les petits paysages qui flottent.
Oui, alors ça c'est autre chose, c'est l'esthétique par exemple des jardins. C'est vrai qu'un jardin qui est bien entretenu, on s'y sent pas toujours très bien peut-être. Enfin, je ne sais pas si c'est tellement une question d'entretien. Parce qu'un jardin, c'est un calendrier plus qu'un plan, plus qu'un dessin. C'est-à-dire que ce que l'on voit aujourd'hui parfaitement entretenu, demain peut être à l'abandon. Ce qui est à l'abandon, demain peut être parfaitement tenu. Il y a cette variation. Et peut-être c'est ça qui est beau de sentir dans un jardin, c'est qu'il a toujours une marge de manœuvre. Enfin, c'est la vie, quoi. C'est ça qui est beau dans un jardin.
Des mouvements, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Un mouvement très très long.
Oui. Automatiquement, ça va se confirmer, voilà. En fait, et ça va se... il va peser plus celui-là que celui-là, parce qu'il va perdre du...
Voilà. Comme ça va aller à la vitesse de la croissance des plantes. Et les plantes poussent lentement, pareil. Okay.
Vlad Znorko, directeur du Cosmos Collège.
Alors, le problème, nous nous retrouvons ici devant l'exposition Brisson. Le problème, c'est que, en voyant cette baignoire emplie de lentilles d'eau, c'est que je me suis fait propre pour venir au vernissage. Et tout à coup me vient ce mauvais souvenir qui va me faire cavaler d'ici 5 secondes, c'est que j'ai oublié de vider l'eau de ma propre baignoire. Bon, celle-ci a le petit plus qui fait qu'elle est chargée de lentilles, qui est une petite algue qui empêche le dessous de respirer, à ne pas confondre avec la lentille verte du puits qui possède un AOC et qui est très riche en fer. Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Monard, de la lentille du puits et de son élevage, comment dire, de sa culture?
Elle passe très bien en salade, l'une ou l'autre.
Un peu chaude, légèrement chaude, avec des oignons et de la charcuterie. Voilà. On va soumettre cette idée-là à Brisson, qui est quand même le maître d'ouvrage de toutes ces œuvres, qui représentent en fait ce qu'on ne voit pas. Le petit monde invisible qui nous frôle à chaque instant et qu'on ignore. Mais qu'on ignore parce qu'il y a tellement de choses à voir à chaque seconde où on cligne les yeux qu'on ne range pas ça dans la case de la raison, mais quelque part on fouille dans une cave ou un grenier et là Brisson a réussi à nous le faire ressortir.
Vlad Znorko, comment tu l'as rencontré, Jean-Luc Brisson?
Eh bien, de force. on me l'a collé devant moi. Et puis tout de suite, ça a été quand même une amitié forcée aussi. On m'a dit, tu t'occupes de lui. Donc ce à quoi je me suis appliqué. Et vous savez, c'est comme des compagnons de cellule, on finit par s'y attacher. Non, Brisson, c'est les poètes fous qui osent faire ce que lui-même a fait, les jardins ratés par exemple, et qui tiennent compte de ces espaces dont je vous parlais, où l'herbe folle est considérée avec noblesse. Et justement, à propos d'herbe folle, mon ami Monard, ici présent, en sait quelque chose, puisqu'il a en charge le jardin de la Gare Franche.
Il n'y a pas d'herbe folle. Toutes les herbes, elles servent à quelque chose.
En tout cas, je suis ébahi et lecteur de bande dessinée un petit peu devant ces icebergs flottants. On a l'impression qu'au gré de la petite brise, des histoires se déroulent devant nos yeux. Voilà.
L'installation de Jean-Luc Brisson, intitulée « Le jardin est une chose mentale », est visible dans la cour du Frac Paca, 25 place Francis Chirat, au Panier, jusqu'au 15 novembre, entrée libre. Au cours de ce reportage, vous avez pu entendre des extraits d'un enregistrement réalisé le 30 septembre sur le marché de Saint-Antoine par Nelly Fleischer. Jean-Luc Brisson est l'auteur, entre autres, de « Le jardinier, l'artiste et l'ingénieur ». C'est édité chez l'imprimeur. Plus d'infos sur le site du FRAC, www.fracpaca.org, ou de la Gare Franche, www.cosmoskolej.org, COSMOSKOLEJ.
Et ça, c'est superbe. Mais c'est aussi les histoires que les gens racontent quand je ne suis pas là, quoi, qui sont intéressantes, beaucoup plus intéressantes. Et merci à vous tous.